Du 18 mars au 3 avril 2010, le théâtre des Bernardines et les Informels ont organisé à Marseille « Arrêtons le gaspillage ». Une manifestation annoncée comme un point de départ et un processus de réflexion, d'analyse et de revendication portant sur les conditions d'existence du théâtre public aujourd'hui. Une manifestation qui s'est déroulée en 6 reprises de spectacle, « Mon corps est nul » de la compagnie Soleil Vert, Crabe rouge de la compagnie Ngiringiri.
Stop! Arrête la musique!
Quoi?
Et j'ai raté un épisode, moi!
J'adore quand le public t'aborde. Ils ont besoin de ça pour survivre.
Tu veux me vendre ta mort, hein?
Tu plaisantes?
Blague à part, en
Early Morning de la compagnie Paloma.
Elle sait qu'un mariage princier apaisera le peuple. Alors c'est maintenant que nous devons frapper.
Exactement.
Mais cela fait 5 ans que vous ne cessez de répéter exactement.
À cause de mes fils, pas de Georges. Lorsque nous aurons tué Victoria, il filera...
Service de nettoyage de l'association 15 Febraio. Le 20 novembre de Léo Maratra.
Je me fous du temps. Il peut faire n'importe quel putain de temps. On joue pas au Counter Strike ici.
Tatella, si j'ai le cœur qui bat, de la compagnie d'à côté.
Oui.
Non.
Ah.
Non.
Et silence de la compagnie Vasisdas.
In the name of entertainment, I will watch TV in silence. In the name of my father, I will find a job in silence.
Une manifestation qui s'est déroulée également en 2 rencontres. 2 rencontres imaginées en collaboration avec le philosophe Hans Wismann.
Et voilà le message. Il nous disait, you know, what you need is more ceremonies. Ça, c'est le mot d'ordre du théâtre. C'est-à-dire de ce temps qui est en fait un temps de cérémonial, depuis toujours.
2 rencontres qui, pour parler du théâtre aujourd'hui, se sont axées sur des problématiques liées au temps. 2 rencontres pour lesquelles ont été sollicités autour d'Hans Wismann, les metteurs en scène des spectacles présentés, des journalistes, auteurs, critiques, des programmateurs, des diffuseurs, mais aussi des agriculteurs et des enseignants. Profession pour lesquelles la question du temps et de son usage est également essentielle. 2 rencontres de près de 3 heures chacune que vous pouvez écouter dès à présent dans leur intégralité, tout comme cette émission, sur le site de Radio Grenouille, www.grenouille888.org. Cette émission spéciale d'une petite heure n'a pas pour ambition d'être un résumé ou une synthèse d'Arrêtons le gaspillage, mais plutôt de faire partager à travers quelques témoignages et interventions glanées pendant ces 20 jours de manifestation, quelques impressions, réflexions, analyses, mouvements d'humeur et d'humour. Alain Fourneau est le directeur du théâtre des Bernardines. À l'inauguration du théâtre à l'automne 1987, il écrivait ceci dans son premier édito.
Ouvrir un théâtre d'essai équivaut à exercer un recours. Un recours face à une marchandisation croissante et néfaste du fait artistique. Ouvrir un théâtre d'essai, c'est ménager un espace où ce qui va de soi pour l'artiste, ou l'expérimentation qui lui paraît être dans le droit fil de sa pratique, n'ira pas se heurter fatalement à des présupposés, à des idées toutes faites sur l'art. Nous n'avons pas la prétention de faire ici à Marseille le théâtre de demain, mais simplement d'affronter ce qui aujourd'hui nous paraît important et nécessaire, retrouver le goût du travail et de l'invention au quotidien. le plaisir de montrer aussi au quotidien. La diversité des formes de confrontation avec le public que nous avons choisi et qui va de la simple lecture au spectacle fini doit permettre que s'instaurent des rapports plus simples, moins consommatoires, moins révérencieux entre le public et les artistes travaillant aux Bernardines. Elle répond à un besoin vécu de part et d'autre d'être de plein pied. En aucun cas, il ne s'agit là d'une panacée. Ces formes sont transitoires, tributaires de cette période où nous nous efforçons de trouver un nouveau, de nouveau, sens à l'entreprise théâtrale après la disparition des compagnies permanentes. De même, la multiplicité des collaborations que nous avons nouées, metteurs en scène, scénographes, comédiens, danseurs, musiciens, etc., et que reflète notre programmation de cette année, est une façon, là aussi, de retrouver à un autre niveau, et sans doute avec une plus grande diversité, une plus grande pluralité de points de vue, le foisonnement de vie, d'idées, de projets que pouvait receler la compagnie. En cet instant où j'écris, je vis et je ressens les Bernardines comme un lieu où les trajectoires se recoupent enfin, un catalyseur, un outil permettant de prendre en compte un certain potentiel artistique marseillais et de contribuer à son accomplissement. Je sens aussi qu'à Marseille, maintenant, nous sommes enfin à même de prendre nos problèmes à bras-le-corps, comme si le Sud devenait enfin une qualité. Que nous sommes même capables d'assumer enfin notre passé, de lui faire une place parmi nous, comme nous le faisons avec le TQM de Michel Fontaine, qui représente notre passé théâtral et ainsi un de nos présents.
C'est un texte qui résonne comment pour toi aujourd'hui ?
C'est très bizarre parce que on a l'impression qu'on évolue normalement. Et puis j'ai l'impression qu'on est au même endroit. Hein. C'est-à-dire que même pire que la situation, elle n'a pas évolué, quoi. Et que, comme le dit Marie-Josée Malice, moi je pensais que c'était un recours, en fait c'est une soupape, le Bernardine, voilà. Non mais ça c'est des plaisanteries, bien sûr. Ça ne nous a pas empêchés de travailler.
Hans Wiesmann, philosophe.
Je constate que le théâtre est pris en tenaille entre une exigence qui est impatiente en général, qui veut avoir des produits finis, c'est-à-dire qui veut consommer quelque chose qui est d'emblée étiqueté, parfaitement identifiable. Même les modes de financement des spectacles reposent sur ce postulat impatient. Il faut savoir où on va, sinon on ne peut pas investir. Alors que, ça le problème, un bon spectacle nous embarque dans un temps qui n'est pas le temps ordinaire de nos sociétés, ni de nos économies, ni non plus de nos plaisirs ordinaires. On est pris dans un autre temps, et cet autre temps, ça le paradoxe, ne peut être aménagé, créé sur scène, que si on dispose dans le monde normal de l'économie ordinaire, du temps nécessaire et des moyens. Donc il y a un temps à prélever sur notre temps productif, comme disent les gens qui nous vendent leurs produits. Il y a donc un temps à prélever, qui a un coût, pour produire ce temps d'exception, qui est le temps scénique, où on modèle le temps de façon tout à fait autre, en faisant, c'est comme une pâte à modeler, on accélère, on ralentit, on le fait partir dans toutes sortes de directions, avec l'espoir que le public souhaite entrer dans cet autre temps, se laisse arracher au temps de la vie ordinaire. Donc nos réflexions ici tournent autour du problème de gaspillage, de ce temps précieux, qui est un autre temps, un hors-temps, mais en fait un temps qui est, je dirais, comme un temps libéré des contraintes du temps dans lequel nous nous mouvons d'ordinaire.
Suzanne Joubert, auteure travaillant au sein de l'équipe du Théâtre des Bernardines.
On est simplement en train d'essayer de remettre à plat les choses, d'essayer de reparler, de reparler au niveau zéro de qu'est-ce que c'est le travail théâtral, de comment on en reparle, quelles sont les nécessités de l'artiste pour essayer d'amener une légitimité de l'artiste. Et à partir de là, de redemander des choses. Voilà, je crois que c'est de refaire un peu le travail à l'envers. Donc, c'est pas une question facile, parce qu'elle est très, très, très complexe. C'est pour ça que l'attaquer de front, je pense, sauf à faire une révolution totale, ça sera très compliqué. On essaie comme ça, on ne sait pas où on va pour le moment, on cherche simplement à dégager quelle est la question à poser aujourd'hui, quoi, avant de savoir quel problème, pour savoir quel problème on va aborder, c'est quelle est la question à poser. Et je crois que ça, c'est pas clair. C'est pas clair, parce que dès qu'on pose une question, ne serait-ce que sur l'argent, sur le plan financier, sur le plan structurel, il y a des doubles entrées qui sont délicates, il y a une complexité qui n'est pas facile à résoudre, même si la question financière est cruciale en ce moment, bien sûr, comme beaucoup de métiers, hein, parce que la question qu'on pose, elle concerne tout le monde, elle ne concerne pas que le métier d'artiste. Malheureusement, ça concerne énormément de gens et on se sent tout à fait comme en miroir de ça, de la société.
Alain Fourneau.
Ce qu'on s'est dit, c'est que réellement, on entamait avec Arrêtons le gaspillage. Je ne sais pas si ça s'appellera toujours Arrêtons le gaspillage. Mais on a envie d'entamer et on va entamer à tout un cycle de travail et de réflexion, puis d'actions qui iront avec. Donc on est vraiment au tout début. Voilà, après, bon, la question du temps, elle est évidente. Elle est évidente, on a besoin de temps pour travailler, on a besoin de temps pour jouer longtemps, de temps pour reprendre. Alors, pas tous les spectacles, hein, forcément. Il y a des spectacles dont on s'aperçoit au bout d'un temps, relativement court parfois, qu'ils n'ont pas de pertinence. Qui peuvent être intéressants, mais qui n'ont pas une pertinence qui mérite de les porter longtemps. Non, après, du point de vue des comédiens, par contre, c'est toujours bien de jouer longtemps. Ou alors, c'est que le spectacle est raté. Dans ce cas-là, il vaut mieux le retirer très vite et on passe à autre chose. Les erreurs sont toujours bonnes à prendre aussi. Voilà, l'outil de travail aussi. Je veux dire, la génération, par exemple, Vincent Chéreau, pourquoi ils sont arrivés si vite? Et très vite, ils ont fait des spectacles qui étaient aboutis, mûris. C'est qu'ils ont déboulé dans les théâtres très rapidement. Ils ont eu les outils dans les mains. À l'heure actuelle, un jeune metteur en scène qui commence, qui est à son premier, deuxième spectacle, il répète dans une salle de répétition, donc qui n'est pas équipé, qui n'est pas forcément, en plus, où il n'y a pas forcément l'espace nécessaire. Et puis, il se retrouve une semaine, c'est déjà pas mal, dans un théâtre, il faut qu'il maîtrise ça. Il est paumé, il risque de lui tomber dessus des lumières qui n'iront pas avec son spectacle et qui vont lui casser le travail. Donc il y a vraiment aussi, c'est aussi important que le temps, une prise de possession des outils. Ça va avec le temps, hein, d'ailleurs. La question du temps, c'est celle qui débouche sur tout. Le rapport avec les programmateurs, il faudrait quand même, à un moment donné, pouvoir arriver à considérer qu'on vit dans le même territoire, et qu'on peut s'interpeller facilement. Alors après, c'est pas de la faute des programmateurs. Ils sont pris dans leur problématique. On peut dire aussi qu'il y a trop de spectacles. Moi, je dirais pas qu'il y a trop d'artistes, je dirais qu'il y a trop de spectacles. Comme il n'y a pas de grandes aventures de théâtre, il y a une démultiplication de petits spectacles. Et donc, ça arrange bien le marché, parce qu'après, je veux dire, il n'y a plus qu'à faire son choix, et puis voilà, et on joue les uns contre les autres. Hein. Et ça, c'est terrible. Il n'y a pas... Encore une fois, il n'y a pas de démultiplication d'artistes. Je veux dire, ce qui est intéressant, c'est que les mauvais, s'il y en a, s'éliminent d'eux-mêmes. Mais ça, on peut le faire que s'il se met en place, malgré tout, des systèmes de valeurs. C'est-à-dire que s'il y a de grandes aventures théâtrales, or, à l'heure actuelle, tout vaut tout. Donc, il n'y a pas de... On repère difficilement les grandes aventures théâtrales. Voilà, bon, ça c'est une question. Après, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la question du temps, des outils de travail, relation avec... Et la question du public aussi. C'est-à-dire, comment on pourrait... À l'heure actuelle, n'y a pas de rapport direct avec le public. C'est-à-dire qu'un artiste qui a envie de lancer une démarche particulière, qui soit en contact régulier avec le public, il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il n'a pas de pouvoir de décision. Le pouvoir de décision, c'est les structures. Et ce sont les structures qui décident de quelle action culturelle il va y avoir. Donc les artistes, là-dessous, il faut qu'ils passent plus ou moins sous les fourches codines. Alors parfois, ça s'élabore en concertation. Là, c'est ce qu'il y a de mieux.
Revendiquer du temps, aujourd'hui, c'est revendiquer de l'argent. Plus d'argent.
Oui, mais parce qu'on vit dans la logique de cette société-là. Il faut pouvoir dire, mais la valeur principale, c'est le temps. C'est pas l'argent. Donc là, si on se dit ça, si on se dit la valeur principale, c'est le temps, notre monnaie, c'est le temps, c'est totalement différent. Vraiment, qu'est-ce qu'on fout, quoi? Je veux dire, on est dans une course vers la tombe, un point, c'est tout, quoi. Je veux dire, si on ne peut pas maîtriser son temps. Et ça, bon, c'est des stratégies à mettre en place hein, pour arriver à maîtriser son temps, mais c'est hyper essentiel. C'est l'enjeu même de l'acte artistique. Après, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut un an pour faire un spectacle. Ça veut dire qu'il faut du temps en continu avec d'autres qui ne sont pas toujours les mêmes parce qu'on risquerait de s'ankyloser. Mais c'est du temps pour travailler ensemble. Et travailler ensemble, ça peut, s'il y a ce background, travailler ensemble, après, ça peut produire des spectacles qui se feront en 2 mois, comme ça peut produire des impromptus qui se feront en 15 jours. Ça peut produire des spectacles en appartement, ça peut produire des rencontres diverses. Ça alimente tout le temps. Mais le problème aussi, c'est que l'argent, il est bloqué dans les structures. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je veux dire, c'est de plus en plus, en ce qui concerne l'argent pour l'artistique, c'est de plus en plus considéré comme une marge. D'ailleurs, le terme est utilisé. C'est la marge artistique. Or, plus ça va, comme il y a moins d'argent, plus les structures bouffent du fric et plus l'artistique, il est mis à la marge. Bon, là, j'ai ma main qui pousse l'artistique du côté du bord de la table et bientôt, il va tomber de la table.
Donc, on retombe bien sur l'argent. Hein.
Oui, bien sûr qu'à un moment donné, on retombe sur l'argent. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il faut plus d'argent. C'est comment l'argent est utilisé aussi. Je veux dire, le mot d'ordre de mouvement qui, à un moment donné, mais ce qui était un truc de provocation, qui était de dire 2% pour la culture. Oui, d'accord, 2% pour la culture. Mais comment? Comment cet argent-là est utilisé? Parce que je veux dire, quand Lang a dit 1% pour la culture, ok, d'accord, très bien. Mais en même temps, budget 1982, pas de mesures nouvelles. 2 fois plus d'argent pour ceux qui en ont déjà et pas de mesures nouvelles. Et c'est ce qui nous a mené quand même, en partie, à la situation inextricable dans laquelle on se trouve à l'heure actuelle. C'est-à-dire d'un côté des structures qui coûtent de plus en plus cher, et de l'autre côté l'intermittence qui se réduit comme une peau de chagrin, et qui en plus maintenant révèle ce qu'elle était, moi, je pense, depuis le début, c'est-à-dire la flexibilité.
Intervention de Laurent de Richemont, compagnie Soleil Vert, metteur en scène de Mon corps est nul, pendant la rencontre du 21 mars.
Non, mais sur ces problématiques de temps, ça c'est clair qu'on est au cœur du sujet. Dire le théâtre est intimement lié à la question même du temps. Pour moi, plusieurs questions se posent. Déjà, il y a la question du plateau, tout simplement, et de l'acteur. Je veux dire, d'une certaine manière, on travaille pour pouvoir poser notre temps. C'est-à-dire que la durée même du spectacle, c'est-à-dire le temps même du spectacle et de l'acte théâtral, pour moi, pour nous, enfin, après, il y a du théâtre comme il y a des chaussures, hein, tout le monde travaille différemment, mais pour moi, il y a essayé quand même d'agir un pouvoir réel, qui est celui d'imposer son temps, sa propre temporalité au monde. C'est Je pense que dans le geste même, alors nous, on a beaucoup travaillé, sur essayer de prendre conscience d'être aussi toujours au bord du fil de l'oubli. C'est-à-dire que quelque chose peut s'arrêter. Et donc, moi, je montre un exemple, un acteur de la Comédie française, à l'époque où on faisait des dramatiques à la télé, je ne sais pas, des pièces de théâtre en direct à la télé. Tout d'un coup, donc, on voit quelqu'un qui pose quand même sa parole, qui a une certaine prestance dans le texte, et hop, qu'est-ce qui arrive ? Un trou de mémoire qui arrête tout, qui suspend tout. Et là, quelque chose réellement se passe, et puis ça va pas. Mais dans ce temps-là, le temps de l'oubli, le temps où quelque chose peut concrètement arrêter le temps, suspendre les choses, je trouve que le geste de l'acteur, peu importe le spectacle, mais le geste de l'acteur, la condition même d'être sur le plateau, agit ce pouvoir-là, qui est un pouvoir subversif, je trouve, dans le monde d'aujourd'hui. Moi, mon problème, c'est pas le plateau, c'est le public. Je trouve qu'aujourd'hui, la question du temps, elle doit se poser pour le public. Comment est-ce qu'on vient voir un spectacle ? Pourquoi enchaîner 1000 spectacles ? Comment on se prépare à regarder un spectacle ? Comment on prend le temps ? Comment on vit aussi un temps ? Comment peut-être on ne subit pas le temps aussi des autres ? Je crois qu'il y a, il y a des choses qui dans ces questions du temps, alors après qui rejoignent bien sûr des questions que je trouve politiques, historiques, puisque moi je ne pense pas qu'on fait du théâtre avec des utopies. Je pense qu'on essaie quand même de comprendre aussi l'époque dans laquelle on vit, et qu'effectivement, les choses ont changé. Il y a l'urgence dans laquelle on est, la production. Je pense qu'il faut arriver à voir comment on peut trouver sa force et quand même sa place sans sortir d'un système. Je trouve qu'il y a une manière d'essayer d'apprivoiser quand même les choses. Bon, enfin, Et je finis vite, parce que... Je voudrais aussi poser la question du temps. Donc, nous, on est les compagnies, donc, les émergents, c'est-à-dire ceux qui n'arrivent pas à émerger. Pour dire globalement, on cherche de l'argent pour pouvoir travailler. On m'a répondu une fois une chose qui était... C'est très, vraiment intéressant ce que vous faites. Vous avez besoin d'être aidé. Or, nos budgets ayant baissé, les portes ne sont plus ouvertes. Donc, le problème, c'est qu'on ne peut pas enlever de l'argent à ceux qu'on donne, à qui on donne déjà. La question du temps, c'est-à-dire la possibilité d'avoir du temps, donc avoir de l'argent pour avoir du temps, finalement, avoir du temps, c'est peut-être lié à la mort des autres. J'ai l'impression. Donc nous, on attend que les gens meurent. Voilà, on en est là. Donc dépêchez-vous, les gars.
Comme dans leur spectacle, tout le monde meurt, c'est peut-être la parole qui lui revient.
Aurélie Leroux de la compagnie D'à côté, metteuse en scène de Tatela, si j'ai le cœur qui bat.
Nous, enfin, déjà, on travaille, enfin, c'est au cœur de notre travail, le temps. Le temps qui ne serait pas un temps linéaire, c'est-à-dire point de départ, milieu, fin. On s'amuse avec ça, on cherche ça, c'est-à-dire que tout le spectacle, par exemple, est compté. On joue sur le silence, sur des moments où on cherche justement ce temps qu'on n'a pas, je dirais, dans nos vies routinières, ou alors qu'on prend plus, enfin quotidien, enfin, ou alors plutôt qu'on ne prend plus le temps d'avoir, ou alors même qu'on ne nous donne plus le temps, le temps d'avoir. C'est aussi ce rapport au temps, du coup, de pas entrer. Bien sûr, il s'agit d'être dans un spectacle. Mais de ne pas entrer dans l'efficacité d'un spectacle, dans l'efficacité d'un temps convenu pour le public, d'un temps où on se dit le public il attend ça, il a... non. Enfin, c'est travailler sur le temps aussi, c'est comment on travaille sur la mémoire, c'est-à-dire comment le présent est à la fois fait, porte déjà son futur et porte aussi son passé, et comment c'est une circulation enfin, entre tous ces temps. Enfin, Tatela, si j'ai le cœur qui bat, c'est construit comme ça. Mais c'est construit comme ça, non seulement parce que c'est un peu la thématique du spectacle, mais aussi de par comment on travaille, c'est-à-dire qu'on travaille sur la mémoire. Par exemple, sur Tchekhov, on a commencé à tout lire, à manger, entre guillemets, du Tchekhov. Et après, au fur et à mesure, au cours du temps, il y a des petites choses qui se déposent, il y a d'autres choses qui arrivent. Et puis finalement, on va inventer des futurs par rapport aux petites choses qui se sont déposées. Et dans notre méthode de travail aussi, on enregistre tout. Toutes les représentations vont être enregistrées, enfin, même les temps de répétition. Il y a des parcours qui vont être refaits tels quels, tout le temps, sauf qu'on se rend compte avec le dépôt du temps et dans la précision de cette partition-là va arriver plein de futurs, à un tel point qu'on nous demande mais est-ce que vous êtes en improvisation sur certains passages, alors qu'il n'y a aucun moment d'improvisation. Donc le temps déjà, nous c'est au cœur de notre travail, je dirais, si, pour parler de ça.
En quoi le temps que pointent du doigt les Bernardines, c'est-à-dire un temps de l'acharnement productiviste, comment ce temps-là, qui est le temps général du monde aujourd'hui, agit sur le travail du collectif?
Nous, ce temps productif, on a décidé d'essayer d'y échapper, de travailler à côté. Enfin, c'est un peu du coup le titre, le nom de la compagnie d'à côté. C'est-à-dire déjà, on ne peut pas faire un spectacle en un mois et demi, de par le fait de comment on travaille, en tout cas pour le moment, parce qu'on n'est pas dans une pièce, parce que on travaille avec la durée du temps, enfin pour plein de raisons. Donc c'est un choix qu'on fait aussi, par exemple, de pas être dans ce temps qui va nous être imposé, non seulement mais économique aussi, je veux dire. Enfin, je crois qu'il y a un réel souci financier aussi pour quand on s'engage dans des aventures comme la nôtre, on se paye même pas la moitié de ce qu'on travaille, même pas de travail concret de plateau. Je parle pas du travail de recherche parce que ça, on se ferait quasi pas. Et que du coup, c'est une réelle question. Après, moi, j'ai préféré répondre pour sortir de ce côté-là qu'effectivement, c'est un choix qu'on fait de donner son temps, enfin de donner de la valeur au temps. C'est un choix qu'on fait avec toute la difficulté que ça représente aujourd'hui aussi, sans entrer dans aucun misérabilisme et tout ça. Mais effectivement, à l'heure actuelle, il y a 15 ans, je pense que c'était beaucoup plus possible. J'en parlais avec Tanguy qui lui me disait, mais moi, il me disait, toi, ton travail, il te faut du temps. Il me dit, tu es dans le dépôt, il te faut du temps. Mais il me dit, nous, à l'époque, on pouvait avoir 6 mois, enfin, on peut encore, parce que voilà, il y a des noms qui se forgent et des travaux magnifiques de leur part qui arrivent. Donc, du coup, ils pouvaient. Maintenant, on n'est plus dans une pensée comme ça. On est dans une pensée où il faut aller à l'efficacité. Moi personnellement, j'y crois pas à cette efficacité. Enfin, j'y crois pas. Si ça nous fait des objets reproductifs, on reproduit, on fait la même chose, mais on n'a pas le temps. Et je crois que le spectateur, il en a marre aussi. Je crois qu'il faut aussi arrêter d'évaluer le spectateur, les goûts du spectateur. Non, c'est pas vrai. Je me suis rendu compte, Tatiana Schlurkiba, qui je crois n'est pas un projet efficace ou quoi que ce soit, mais. Je crois qu'on a besoin de ça aujourd'hui, de qu'on nous propose un autre temps sur le plateau. Après, il y a quelque chose de très beau qui est de reprendre un spectacle. Nous, c'est la première fois finalement qu'on reprend. C'est-à-dire que Tatiana Schlurkiba, on l'a écrit aux Bernardines. À la suite de ça, on a été à la Bastille et après à Cannes. C'était dans un mouvement où c'était vraiment. Voilà, c'était un mouvement où on travaillait chaque jour. Là, ça fait un an qu'on n'a pas joué le spectacle. Et de le reprendre, c'est quelque chose de très très beau parce que, bon, pareil, ça s'inscrit dans le travail, mais de voir tout ce qui est resté, tout ce qui s'est déposé ou pas, tout ce qui est. Voilà. Et pour les comédiens, c'est aussi un vrai temps pour eux, je dirais. C'est le temps des comédiens aussi, de comment maintenant ils peuvent travailler réellement, c'est-à-dire s'amener eux-mêmes là-dedans. C'est de jouer le moins possible, s'amener, quoi. Donc, je crois que ce temps-là est très important aussi, le temps de la reprise, de pouvoir reprendre et continuer.
Mathieu Cipriani, metteur en scène, réalisateur, y a suivi en tant que spectateur les rencontres d'Arrêtons le gaspillage.
Je crois que quand il s'agit de parler de notre époque, on dit souvent oui, on est dans un temps de la marchandise, du supermarché, et puis finalement tout le monde est d'accord là-dessus pour dire ça. Et souvent, je m'aperçois que cette dimension, cette sorte de consensus autour de cette idée, finalement, arrive toujours comme un point dans une phrase. C'est-à-dire que c'est ce qui clôture généralement toute discussion. Parce qu'au-delà de cette réflexion, on se dit, mais alors, bon, ben oui, on est d'accord là-dessus, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut faire, bon, ben on ne sait pas, ah, oui, alors on se met à penser peut-être de manière nostalgique à comment c'était avant, ou alors on rentre totalement dans des utopies. Alors moi, je ne suis pas tout à fait sûr avec ça, et je participe plutôt à l'idée qu'on est peut-être moins dans l'ère de la consommation ou dans le supermarché que dans celui de l'entreprise. Et je crois qu'on est tous contraints, finalement, pour nous-mêmes, comme pour notre famille, pour nos enfants, devant nos enfants, devant la famille qui nous entoure, devant nos amis, à agir dans le monde comme si nous étions une entreprise. Et je pense que c'est quelque chose que l'on retrouve d'ailleurs dans quels que soient les secteurs d'activité. Et je pense que c'est à cet endroit-là où il y a un véritable problème. Parce que qui parle de liberté d'entreprise, parle forcément aussi de compétition, de concurrence, et certainement pas d'égalité. C'est-à-dire que finalement, on aurait presque le sentiment que la libre entreprise, à mesure que cette notion est admise par tous, eh bien, il y a forcément, on arrive à la conclusion qu'il y a des inégalités. C'est-à-dire que eh bien, tout le monde ne va pas réussir dans l'arène. Et donc il y aura des élus, et d'autres ne le seront pas, ils seront laissés de côté. Voilà. Et c'est un modèle sociétal qui est idéologique et puis qui est très récent en plus. Alors on peut parler des gladiateurs dans Rome, mais c'est vrai que Rome n'a pas inventé la tragédie. Rome a inventé les jeux du cirque, mais pour inventer la tragédie comme les Grecs, il fallait qu'il y ait de l'amour entre les gens. Mais peut-être que ce n'était pas le cas de Rome. Mais en tous les cas, force est de constater que ce qui est le plus, je crois, le plus douloureux, c'est d'être contraint d'être dans le jeu des concurrences, de la concurrence. Voilà. Et finalement, on pourrait presque plus parler en termes de force de travail, puisqu'il s'agirait juste finalement de mettre en compétition un capital de compétences, et que le salaire viendrait juste là pour récompenser ou donner en échange quelque chose de ce capital compétences que l'on met à la disposition. Et voilà, bon, je pense que c'est ça, c'est de cette problématique-là dont il s'agit. Je me suis aperçu qu'il y avait dans les spectacles où je pouvais voir le souci de produire un spectacle, un objet qui soit esthétique. C'est-à-dire essayer finalement de comparer en termes de valeur, une esthétique plutôt qu'une autre. Voilà. Je trouve que c'est souvent...
Une signature.
Oui, une signature, mais en même temps, c'est ça, on peut appeler une signature. Bon. Et je dirais que c'est... Enfin, pour moi, c'est un écueil de se soucier de la production esthétique, mettre en comparaison la question du beau. Ça me paraît être un sujet qui, enfin, moi, me concerne pas finalement, tu vois. En somme, ça rejoint la question de savoir quelle est la fonction de l'art. Est-ce qu'il en a une fonction? Alors, on peut dire que la philosophie, par exemple, qu'est-ce que c'est que la philosophie? On peut dire qu'est-ce que c'est qu'un artiste? On peut se poser toutes ces questions. Enfin, en tous les cas, on peut aussi dire que ce qu'il rassemble, le philosophe de l'artiste, c'est finalement la création. Un philosophe, lui, il va créer des concepts. Sinon, il n'est pas philosophe. Il est, je ne sais pas, autre chose, professeur de philosophie peut-être. Quant à un artiste, bien, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est quelqu'un qui crée quelque chose, mais alors il ne va pas créer des concepts. Qu'est-ce qu'il crée? Il crée du. Alors, certains diront qu'il va créer du sensible, d'autres diront qu'il va créer du sens. Enfin, en tout cas, si je choisis la deuxième hypothèse, celle du créer du sens, je suis obligé de m'orienter en tous les cas vers le public, c'est-à-dire de me dire qu'il ne doit pas y avoir de séparation entre la cité, entre les gens de la société civile, et puis la pensée, ceux qui réfléchissent, ceux qui agitent du sens. Voilà. Et que cette séparation, malheureusement, je la trouve souvent très présente dans beaucoup de productions esthétiques, justement, parce que finalement... On dit, bah oui, bah, les gens sont là pour voir ce qui se passe, un travail, enfin, des questions qui nous interpellent, etc. Mais bon, il y a une large séparation. Partant de ce constat-là, je me suis rendu compte que ma place était profondément insuffisante dans la cité si elle ne se contentait uniquement à des exercices de style. Et c'est pourquoi je participe à l'idée que... pour qu'il n'y ait plus cette séparation entre la pensée et le corps social, finalement, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus cette séparation quasi, qu'on pourrait même qualifier de judéo-chrétienne, entre le corps et l'esprit, finalement, c'est de faire en sorte que l'un et l'autre puissent circuler, que ça puisse, voilà, qu'il puisse y avoir une circulation. Et c'est sans vouloir porter des habits... je dirais idéologique, qui ne me conviendrait pas ou que j'aurais ravaudé. Je pars en tout cas de l'idée que si je ne suis pas dans la production esthétique, alors dans ce cas, je m'oriente davantage vers une fonction artistique de l'artiste dans la cité. Et cette fonction, je la place du côté d'un partage d'expérience, de savoir-faire, mais aussi finalement d'éducation. C'est-à-dire que pour moi, je me dirige vers en tout le cas... une pratique qui serait, ou un art qui serait en tous les cas une forme possible d'éducation populaire. Et alors, éducation populaire, c'est très large, c'est comment le mettre en application aussi, comment le... alors après, ce sont les dispositifs qui sont à inventer, ce sont les alliances avec des partenaires qui sont à inventer, peut-être de nouveaux partenaires, mais l'essentiel étant de... que les propositions de théâtre ou de cinéma soient constamment en lien avec la question du vivre ensemble, avec la question de l'être social. Voilà. Donc peut-être que le théâtre doit répondre aussi à des questions directes que peuvent se poser les gens à qui ça s'adresse.
Tu connais le théâtre? Le théâtre, tu connais?
Oui, bien sûr.
Bien.
Tu veux dire que tu es vraiment comédien?
C'est-à-dire, je fais ça.
Oui, mais je veux dire, tu es comédienne.
C'est-à-dire, j'ai pris le cours de Marcotta, la méthode Strasberg. Tu connais la méthode?
Non.
Tu n'as pas une méthode? Tu dis, c'est une méthode?
Valentina, Diana, Lorenzo Fontana et Claudia Ham de l'association 15 Febbraio. Ils présentaient pendant Arrêtons le gaspillage le projet Service de nettoyage. Vous avez choisi de jouer au milieu du public et dans des lieux qui ne sont pas des scènes de théâtre, mais là, ce soir, en restaurant, je sais qu'il y a des appartements aussi, des choses comme ça. Quelle est la recherche là? Qu'est-ce que vous recherchez dans cette proximité avec le public et dans ces lieux-là?
Je parle pour moi, comme a dit Valentina, je suis acteur, mais... C'est très important dans cette, la communication qu'on a construite, la forme, Et pour cette forme, c'est nécessaire d'avoir, je pense, la possibilité de regarder le public dans les yeux, d'avoir des contacts qui ne sont pas des contacts réellement physiques, comme ça, c'est pas la forêt del Baus, non? Mais c'est la possibilité d'être vraiment entre les gens, avec le public. Parce que ce sont des thèmes qui pour nous sont importants de porter comme ça, parce que le public peut réfléchir avec nous sur des choses qui sont très concrètes, très de la réalité. Alors de mettre cette idée sur un plateau qui est très froid, c'est pas bien pour nous. C'est plus facile de faire ce travail comme ça, avec le public très prêt à nous.
C'est vraiment la politique du spectacle de dire ce qui est la vertu du théâtre, c'est le rapport direct au public, parce qu'il y a d'autres médiums comme le film, la danse, la musique, qui ont des possibilités beaucoup meilleures pour créer des espaces fantaisistes. Donc le théâtre, c'est vraiment le rencontre avec le public. Et moi, par exemple, comme metteur en scène, je suis très intéressée en ça, mais j'avais toujours le problème en voyant des acteurs sur le plateau qui s'efforçaient beaucoup à produire des choses. Je me sentais embarrassée pour eux. Donc je cherchais une forme pour qu'on supporte la présence physique des acteurs et encore qu'ils sont encore plus proches que sur le plateau. Et c'est pour ça qu'on a vraiment cherché de se rapprocher le plus possible, hein, parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de décor, il n'y a pas presque pas de costume. Donc c'est ça ce qui est au milieu, c'est le rencontre entre les acteurs et le public pour parler des thèmes et sujets qui sont communs à nous tous, parce qu'on partage vraiment la même réalité dans cette construction de pièces. Oui.
C'est seulement une question d'intimité. Je pense que ce type d'intimité, c'est très difficile à trouver sur le plateau, parce que pour de façon extrêmement technique, par exemple la voix, tu dois l'emporter plus loin, et du moment que tu fais ce travail-là, tu es déjà un peu différent de ce qui te... écoute. Alors là, ici, par exemple, c'était bien parce que il n'y avait pas la nécessité de forcer. C'est ça.
Comment est née l'idée de ce service de nettoyage?
Pour moi, c'était très concrète et en même temps un peu conceptuel. C'est-à-dire que nous voulons parler de la différence, l'espace qu'il y avait entre l'idéal c'est-à-dire le travail, notre travail comme artiste, et les concrets, c'est-à-dire ce que nous devons faire pour avoir de l'argent suffisant pour continuer notre travail. Et là, il y avait cette possibilité de faire quelque chose qui était vraiment un travail, un vrai travail. Et on a pensé, on peut le faire comme ça, on peut le proposer comme ça, avec cette double nature de travail concret, de nettoyage, et puis à l'intérieur, et c'est une possibilité d'utiliser ce moment-là pour insérer, mettre dedans notre travail artistique. Alors, c'était une chance. Là.
Il faut peut-être se rendre compte qu'en Italie, les possibilités pour faire du théâtre, disons non classique, sont très très difficiles. Donc, c'était aussi pour nous une métaphore de parler de cette situation-là. C'est faire du nettoyage, c'est pas du tout. Bien sûr, c'est une petite provocation qui va un peu plus loin, mais beaucoup de services desquels ils parlent pendant le spectacle, ce sont des vrais travaux qu'ils ont fait dans leur vie pour se gagner la vie d'acteur. Donc, faut demander à lui. C'est... non, mais
il y a quelqu'un qui fait ça. C'était la prostitution, ça. Ça, c'est la prostitution, comment dire, la plus, disons, banale, non, mais c'est une question très, très forte de mettre à disposition des autres, ta professionnalité. Et il y a des moments dans lesquels tu dois réfléchir si arrive un moment dans lequel la prostitution, c'est trop fort pour toi, alors tu dois changer.
Dans cet espace que tu décrivais entre le concret et l'idéal, il y a beaucoup d'humiliation, en fait.
Oui, absolument. Oui, c'est ça. T'as compris très bien. Si, c'est très humiliant. Et c'était ça qu'il pouvait aussi nous donner une force pour être... parce qu'il y avait la possibilité de montrer cette humiliation. Et dans le moment que tu peux essayer de la montrer, tu n'es pas aussi humilié comme avant. Alors ça, c'est une possibilité. C'est une action, et évidemment, aussi concrète, ça, de montrer quelque chose, quelque chose qu'il se passe. Et c'est ça.
De tourner ça en utopie, oui. Aussi, de pouvoir dire, nous, on a des expériences qui sont communes, je pense, à tout le monde, c'est pas seulement les artistes. Il y a beaucoup d'humiliation et beaucoup de personnalités qu'on met en jeu dans le travail, dans le monde du travail. Et je pense que ça, c'est toujours plus. Que c'est vraiment toute la personnalité qui est questionnée dans le travail. Donc, en tant qu'artiste, on a au moins la possibilité d'en parler. Et en parlant, je trouve qu'il y a une utopie, une liberté qu'on se prend pour passer du réel au fictionnel ou à la fiction. Donc, je ne sais pas si ça se sent pété. C'était...
Alain Fourneau, directeur du Théâtre des Bernardines, et Marie-Josée Malice, metteuse en scène, intervention lors de la rencontre du 3 avril d'Arrêtons le gaspillage au Théâtre des Bernardines.
D'abord, c'est la deuxième rencontre, donc on ne refait pas la même, bien évidemment. On tient compte qu'il y en a eu une première, et il y en aura d'autres par la suite. Et ça s'inscrit... Enfin, j'espère, ça s'inscrit dans un mouvement pour penser, je dirais, la réappropriation par les artistes, comme il peut y avoir la réappropriation, je dirais, par les paysans ou par d'autres, du temps, des outils, mais que ça nécessite effectivement d'abord, non pas de dire il nous faut de l'argent pour travailler uniquement sans faire l'analyse de là où on en est, mais ça nécessite de bien regarder là où on en est et comment déjà, là où on arrive à se réapproprier des choses au plus près. Bon, la dernière fois, moi, j'ai un peu parlé de mon rapport au temps et comment, au fil des années, en tant que metteur en scène, j'avais peu à peu bricolé avec ça. Bon, Marie-Josée avait sorti son drapeau rouge et avait dit, elle, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, il ne faut pas perdre la visée, ce qui m'intéresse, c'est le quatrième temps. C'est-à-dire comment on réinscrit ces questions-là par rapport à un temps historique. Donc c'est un peu ce que je viens de dire, c'est que effectivement ces rencontres qu'on a posées là, les premières rencontres, les premiers pas balbutiants, j'insiste sur le côté balbutiant, je dirais c'est dans cette visée-là. Et comme j'avais justement envie d'inverser les rôles, puisque c'est moi qui ai sorti le drapeau rouge là, j'ai demandé à Marie-Josée de parler, elle, au plus près de son expérience à elle, du temps, dans le travail.
Tu me demandes de faire le récit de mon travail, enfin, comment quel est mon rapport au temps, et tu sais que je n'en ai pas envie. Parce que, justement, alors, comme on a un temps de parole très court, j'ai choisi de faire des petites actions provocateurs. Mon credo à moi, c'est que je crois que, pour moi en tout cas, nous ne sommes plus dans le temps des récits. C'est-à-dire que moi, je souffre beaucoup, justement, des réunions publiques où ce qui est convoqué, c'est le récit, comme ça, impressionniste, on l'avait dit, des expériences. Et je plaide, quant à moi, pour l'invention d'une méthode de travail. Je sais qu'on est d'accord là-dessus, hein. Mais d'où ma réticence, un peu comme ça, volontaire, hein, à me livrer à l'exercice du récit.
Non, mais c'est le récit, la construction de la méthode.
Oui, oui, c'est ça.
C'est plus ça. C'est pas, je c'est pense pas justement que, un récit impressionniste.
Finalement, moi...
qui convoquerait la souffrance.
Non, voilà, je suis d'accord. Mais je suis là pour insister sur des aspects, comme ça, après, on peut... justement, tu vas être dans un débat un peu plus tendu. Moi, je pense que, justement, cette dimension réflexive, enfin, cette espèce de dialectique est très belle dans notre travail, qui est une chance inouïe quand on y pense, d'être à la fois totalement en train de faire ce qu'on fait et de pouvoir en faire un plan d'épreuve existentielle et sur lequel on réfléchit à ce que c'est qu'être un homme, en fait, qu'est-ce que c'est qu'organiser sa vie. Le théâtre permet ça. Je pense qu'en effet, on a de plus en plus de mal à le porter parce que, on le sait, on a un accès très problématique à l'outil, au cadre d'exercice du métier. Et donc, je pense que dans cet accès, je crois que maintenant, historiquement, c'est ce qu'on disait la dernière fois, provisoirement, historiquement, le moment est venu de nous mettre au travail sur l'invention d'une méthode pour que le sentiment que j'ai, en gros, c'est que nous ne sommes plus à l'origine, au théâtre en tout cas, de pratiquement aucun des énoncés qui nous régissent dans la vie, dans le système théâtral. Et je pense que c'est notre responsabilité de les réinventer, ces énoncés. Donc, entre autres, en ce moment, une grande partie de mon temps, temps professionnel, est une partie consacrée à ça. Petitement, parce qu'en effet, tout ça est balbutiant, parce que, spontanément, le temps n'est pas aujourd'hui à la réunion de travail. Mais moi, je dirais un peu bêtement qu'il faut que nous redevenions doubles, c'est-à-dire qu'il faut que nous soyons absolument artistes, évidemment, sur le plateau, d'un prosaïsme très sérieux, très tendu, avec notre discipline, enfin, être vraiment très respectueux de ce qu'est le travail artistique. Mais il faut aussi, je crois que ça s'accompagne d'une dimension politique, de labeur politique. Et pas seulement, évidemment, de slogan, mais de travail. Je finirai sur juste une petite chose bête. Je suis fille d'ouvrier agricole, tu le sais, je le dis assez souvent. J'ai évidemment des tentations réactionnaires. C'est-à-dire que, au sens où j'ai vécu, moi, dans un monde où le rapport au temps était magnifiquement harmonieux, ordonnancé par des nécessités. Du coup, le nomadisme, enfin, tout ce qui régit notre vie aujourd'hui, les valeurs de nomadisme, de réseautage, sont pour moi des choses très, très étrangères. C'est pour moi soit l'absolu de la politique, le nomadisme, enfin, pour moi, évidemment, c'est Saint-François. C'est le dépouillement, c'est accepter de n'avoir rien. Mais je ne crois pas que nous soyons très nombreux aujourd'hui à en être capables. Moi, en tout cas, je ne le suis pas. Je m'aperçois que je suis de la moyenne bourgeoisie, désormais. Du coup, le nomadisme, pour moi, est devenu le langage du management, celui qui m'oblige à penser mon travail en termes de réseau, etc., etc. Réseau, voilà, que j'ai ou que je n'ai pas, bon. C'est le temps pour moi de la dissipation. On l'a dit la dernière fois, moi je passe le tiers de ma vie à faire mon métier. Les deux tiers, je lutte contre la dissipation. Je parle plus que je ne fais. Voilà pourquoi, je finirai là-dessus, c'est une provocation, j'ai un appel à un temps platonicien, un temps structuré, hiérarchisé, un temps méthodique. Je crois qu'il nous faut vraiment inventer une arithmétique, une méthode. Je crois que provisoirement, il nous faut renouer avec ces idées-là, un peu austères, se mettre au travail, essayer de structurer notre activité en mettant en place une hiérarchie des priorités. Et pour moi, une des priorités, c'est sommes-nous une confrérie capable d'être à la hauteur de la tâche historique qui est la nôtre, qui est quand même de repenser notre système, en fait. Voilà.
C'était une émission spéciale sur Radio Grenouille consacrée à la manifestation Arrêtons le gaspillage, organisée du 18 mars au 3 avril 2010 à Marseille par le Théâtre des Bernardines et les Informels. Une manifestation qui, à travers reprise de 6 spectacles et 2 rencontres, a souhaité poser le début d'un processus de réflexion, d'analyse et de revendication sur les conditions d'existence du théâtre public aujourd'hui et demain. Vous avez pu entendre au cours de cette émission Alain Fourneau, directeur du Théâtre des Bernardines, Hans Wiesmann, philosophe, Suzanne Joubert, auteur, les metteurs en scène Laurent de Richemont, Aurélie Leroux, Mathieu Cipriani et Claudia Hamm, et les acteurs Valentina Diona et Lorenzo Fontana. Une émission spéciale que vous pouvez écouter quand vous le souhaitez, tout comme l'intégralité des 2 rencontres d'Arrêtons le gaspillage sur le site de La Grenouille, www.grenouille888.org.